14h53 sur France Culture. C'est l'heure de retrouver Xavier Martinet. C'est un plaisir de vous retrouver pour le journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
De même Tiffaine, bonjour. Bonjour à tous.
Le coronavirus n'a pas seulement grippé les économies de la planète, il a aussi entraîné une nouvelle réflexion sur la pertinence des grands indicateurs économiques.
Oui, c'est un peu comme cette scène du roman de Saint-Exupéry, Vol de nuit, lorsque l'un des pilotes est pris dans une tempête et que les aiguilles des indicateurs de position oscillaient de plus en plus vite, devenaient difficiles à suivre. Sous l'effet de la crise sanitaire, les grands indicateurs économiques sont devenus des instruments presque inutilisables, tant leurs variations ont été fortes. Plusieurs points pour les PIB, produits intérieurs bruts ou les taux de chômage. Symptôme 1, l'un d'entre eux de la confusion, le 14 juillet, Eurostat, qui publie les données mensuelles pour la zone euro, publiait les statistiques industrielles du mois de mai avec un mois de retard. Il a donc fallu se mettre à naviguer à vue, d'où la prudence de Bruno Le Maire le 15 avril.
Nous avons retenu, comme le Premier ministre vient de vous l'indiquer, une prévision de croissance à moins 8% pour l'année 2020. C'est un chiffre élevé, ce n'est pas un chiffre définitif. Nous avons révisé ce chiffre de croissance au vu de trois éléments, la durée du confinement, la progressivité de la reprise économique, et en troisième lieu, c'est le point le plus important, en raison des fortes incertitudes qui pèsent sur le développement de la crise économique partout dans le monde.
Et oui, compliqué de modéliser le risque sanitaire. L'incertitude reste la vraie découverte de ce confinement, puisqu'on apprenait hier que la baisse du PIB s'orienterait plutôt vers les 11%. La crise est brutale, les conséquences cinglantes. Pour l'éditorialiste aux Échos Jean-Marc Vittori, la semaine dernière, le confinement a tout simplement envoyé dans le décor les statistiques classiques de l'économie.
En somme, Xavier, les prévisions sont difficiles et les statistiques aussi deviennent floues, voire carrément impossibles.
Oui, le problème est que pour être le plus exact possible, la statistique doit se nourrir d'un grand nombre de données compilées sur un temps très long. Le PIB est utilisé mondialement depuis les années 30 et c'est dès la fin du 19e siècle que se généralise le calcul de l'inflation. Il y a donc une certaine inertie à cette technique, nécessaire à son existence, permise aussi par les habitudes de consommation qui changent lentement. Or, cette fois-ci, notre Jean-Marc Vittori, achats et production ont basculé en 3 jours et les indicateurs ont été en quelque sorte pris de court par la brutalité du choc. Le confinement a rendu impossible les enquêtes d'opinion, les achats en ligne ou dans des commerces de proximité, la nécessité de nourrir tout un foyer à domicile ont achevé de brouiller les indicateurs de consommation. Quant à l'inflation, elle, son calcul est devenu inopérant, explique la spécialiste du sujet Florence Janicatrice, jointe au téléphone. D'habitude, elle se fonde sur une collecte mensuelle d'environ 170 000 prix, mais en mars, c'était quasiment la moitié du tableau qui était vide, faute d'achats suffisants.
Reste que les institutions statistiques se sont adaptées et que certains veulent voir dans la crise une opportunité.
Oui, du côté des institutions, par exemple, l'INSEE notamment s'est reporté sur les données de caisse des supermarchés ou les données bancaires, non sans une marge d'erreur importante. Et puis en dernier recours, on a même conservé les prix des mois précédents plutôt que rien. La DARES, elle, l'Institut du ministère du Travail, a publié des statistiques de crise, télétravail, chômage partiel ou impayé. Et puis faute de données, en dernier recours, les analystes ont utilisé celles des opérateurs télécom et ils ont même repris les bonnes vieilles cartes et graphiques d'embouteillage. La crise et la recherche d'un signe de reprise, alors peut-être promu des indicateurs habituellement négligés, mais on voit qu'on est loin de la fiabilité des statistiques classiques. Or, pour Jean-Marc Vittori, cette crise présente quand même un formidable défi pour les fabricants de chiffres qui nous aident à comprendre les mouvements de l'économie.
Une des solutions, Xavier, serait d'utiliser plus massivement les données haute fréquence. Ce sont les données privées issues des banques et sites d'achat en ligne.
Oui, c'est une des manières de résoudre le problème du délai de la collecte et de se rapprocher du temps réel et de la mobilité avec toutes les réserves éthico-juridiques que leur utilisation entraînerait, puisque la haute fréquence, c'est par exemple la consommation d'électricité, mais aussi l'internet marchand qui passe automatiquement par la case Google et Apple. Le directeur général de l'INSEE lui plaide pour une coopération durable, mais on voit que les institutions statistiques étrangères s'essayent également à la collecte de données haute fréquence. C'est par exemple le Truck Toll Mileage Index, dont les données sont collectées automatiquement par l'agence Destatis allemande, ou alors le Online Prices for High Demand Products, le bulletin des prix à très forte demande en ligne, publié par l'ONS britannique. Ces deux indicateurs sont tous deux annoncés comme expérimentaux, mais montrent déjà certains mouvements fondamentaux. Disons ainsi, du 9 au 16 août, le prix des pâtes sèches augmente le plus, mais le prix des sauces pour pâtes diminue le plus, laissant planer l'horrible soupçon que l'on a acheté trop de sauces pour pas assez de pâtes. Alors les instruments traditionnels sont gelés ou saturés par l'orage, les nouveaux manquent de fiabilité. Mais l'avion s'envole toujours, reste la réflexion sur les nouveaux indicateurs de richesse et la critique là assez radicale du PIB, mais c'est déjà un autre sujet.
Merci Xavier Martinet, on vous retrouve demain pour un nouveau Journal de l'Écho.